On trouve que c'est extrêmement vertueux d'avoir ces deux jambes, cette marque qui montre la voie et de pouvoir accompagner les autres. Et à nouveau, si tu me dis, je prends le scénario catastrophe où dans 5 ans, notre marque n'existe plus, mais qu'on a réussi à embarquer tous les grandes et plein de marques dans la voiture de l'économie circulaire, bah écoute-moi, à titre personnel, je serais heureux.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon, bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Lancelot, l'un des cofondateurs de Cozy, une marque de skincare qui coche pas mal de cases. Certifiée Cosmos, la marque utilise dans ses formules des coproduits issus de l'agriculture, mais en parallèle de la cosmétique, les fondateurs ont donné à Cozy une autre dimension en développant une véritable expertise dans la consigne et surtout le vrac. Ce modèle d'économie circulaire est unique. Il fonctionne et, en ces temps compliqués, montre qu'une autre voie est possible pour réduire considérablement l'impact écologique, mais aussi les coûts de l'industrie cosmétique qui ne cesse d'augmenter. C'est super intéressant et ça donne vraiment de l'espoir. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Arnaud.
Bonjour Chantal.
Qui es-tu ?
Bien écoute, j'ai 40 ans, je suis en couple, père de 3 enfants et depuis 5 ans, je suis aussi le cofondateur père de Cozy, donc jeune marque de soins cosmétiques naturels, bio, made in France et très engagé dans tout ce qui est zéro déchet.
Et alors comme tu disais, tu es cofondateur.
Tout à fait, on est 3 au début de l'aventure. Tout a commencé quand Emeric, mon associé, vient de l'industrie cosmétique. Il a travaillé 15 ans dans cette industrie, plutôt dans les coulisses, en tant qu'ingénieur notamment. Ouais. Et donc a pu voir le décalage qu'il pouvait y avoir parfois entre le rêve vendu et ce qui se passe réellement dans les coulisses de l'industrie cosmétique. Et c'est lui qui a eu l'idée, en premier lieu, de créer une marque engagée. Donc engagée, okay. On y reviendra sur les ingrédients, bien sûr, mais aussi sur les aspects du packaging, très important. C'est lui qui a eu l'idée de départ et c'est un ami que j'avais rencontré à Shanghai quand on vivait là-bas tous les deux, dans différents parcours professionnels. J'ai très vite rejoint l'aventure qu'il avait initiée, puisque moi, j'étais en train de mettre mes premiers pas à titre personnel dans l'économie circulaire, tout ce qui est justement consigne, vrac, etc. Et je trouvais ça passionnant à titre personnel. Je trouve que c'est une solution durable, souhaitable, qu'il faut promouvoir. Donc, je les rejoins avec grand plaisir. Et Louise était aussi au début de l'aventure. Elle revenait d'un tour du monde zéro déchet, sacré challenge.
Ouais.
Donc, pareil, beauté par l'aventure, cette envie de promouvoir le bien-être dans l'industrie cosmétique, mais aussi en allant plus loin dans une forme d'engagement assez poussée. Et c'est de là qu'est née l'aventure parce que tous les trois, on est très complémentaires. Je te disais, Emeric l'ingénieur, Louise marketing communication et moi plus pour tout ce qui est parti développement business.
Et c'était en quelle année du coup ?
2017,
d'accord. Alors COSI, c'est un acronyme pour cosmétique objectif zéro impact environnemental. Quel était le cahier des charges au niveau des formules, des produits, du packaging ?
Ouais, alors d'abord, au sein de l'industrie cosmétique, on propose toute une gamme de soins. Donc, ça va être des soins principalement pour la peau, donc crème de jour, crème de nuit, démaquillant, gommage, etc. Un petit peu d'hygiène avec déodorant et dentifrice. On a d'abord tout un cahier des charges sur la partie ingrédients, bien évidemment. Nous, notre motto, c'est de travailler sur tout ce qui est ingrédients naturels et bio. Donc, on suit la certification Cosmos. Donc évidemment, sur le cahier des charges aussi et sur le développement, on va travailler le plaisir, l'efficacité des formules, mais il faut aussi que ces formules soient compatibles avec le dernier point de notre cahier des charges, qui est une approche zéro déchet, c'est-à-dire que ces formules puissent être en consigne ou en vrac. Donc on a justement ce cahier des charges pour le packaging qui est très important dès le départ, de concevoir des flacons qui puissent être lavés ou qui puissent être, le cas échéant, re-remplis quand on est en vrac. Je vais donner un exemple très précis. On a, par exemple, le gommage visage, donc naturel, bio, made in France. Là, on avait été à côté de à côté d'Agen, où justement toute l'industrie agroalimentaire ne sait pas trop quoi faire des noyaux des pruneaux. Et donc justement, on va récupérer ces pruneaux en upcycling, donc pour extraire l'huile de prune, qui a des vertus nourrissantes, antioxydantes. Et on va piler le noyau pour faire l'exfoliant visage, donc qui est naturel, doux, etc. Donc on a cette démarche déjà d'ingrédients upcyclés, d'aller loin dans cette démarche-là, donc pour un produit plaisir. Et au-delà de ça, ton flacon, soit il sera disponible en consigne, c'est-à-dire que toi, consommateur, tu vas payer 1,50 € de plus ton achat, mais en rapportant ton flacon, tu récupéreras en dessous 1,50 €. Ou alors, dans certains points de vente, c'est également disponible en vrac, tu peux aller recharger ton flacon en vrac dans le point de vente.
D'accord, ah oui, il y a vraiment le choix. Et alors, vous agrandissez la marque à un rythme de 3-4 nouveautés par an, ce qui est pas mal du tout. Comment vous choisissez de lancer de nouvelles références ?
Oui, c'est pas mal, c'est pas énorme non plus. On n'a pas non plus vocation, il y a pas mal de marques qui lancent par dizaines, voire centaines pour les plus grosses. C'est pas notre vocation, on va rester assez proche des essentiels, on ne veut pas forcément sous-segmenter systématiquement. Et pour répondre à ta question, sur comment est-ce qu'on se déplace, comment est-ce qu'on simplement on accompagne nos clients existants et la demande. Et on est maintenant, depuis pas mal d'années, on a cette chance de pouvoir échanger facilement et rapidement en quantité avec le consommateur grâce, entre autres, aux réseaux sociaux. Mmh. Alors aussi via nos magasins, mais pas mal via les réseaux sociaux. Et c'est ces remontées d'informations-là qu'on utilise et qui nous servent à justement cibler les points de développement pertinents pour notre clientèle.
Ok. Et alors, le concept fort et différenciant de Cozy, tu lui as dit, ça a tout de suite été la consigne. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Non, mais c'est vrai. En tout cas, c'est notre point de vue, c'est notre philosophie. Qu'est-ce qui arrive après une longue période de 60 ans et plus d'ébriété ? Qu'est-ce qu'il y a après l'ébriété ? Eh ben, il y a la gueule de bois. Plus sérieusement, on est une prise de conscience généralisée que les ressources sont finies, pas infinies. Et clairement, on considère que l'économie circulaire est une solution durable et qui est absolument excellente, quelle qu'elle soit, pour justement, typiquement, éviter de générer des déchets et considérer que ce packaging, ce flacon, ce pot, va pouvoir être réutilisable à vie. Donc, ce n'est plus un déchet. D'où l'idée de la consigne dès le départ, de ce flacon réutilisable à vie. Et c'était le schéma le plus simple pour toutes les formules, parce que ça s'applique très facilement à tout type de viscosité, tout type de mousse en rompa, etc. Mais aussi, alors, à l'époque, quand on s'est lancé, le schéma pour la consigne n'existait pas.
C'est ça.
Donc on a dû tout faire. Ça commence un petit peu à se structurer, doucement mais sûrement, mais au début on a dû tout faire. Donc très concrètement, on est parti d'une feuille blanche. C'était les premières étapes d'éco-conception, où, comme je te le disais tout à l'heure, il faut définir un certain nombre de pots, de flacons qui ne vont pas être 300, mais qui vont être un petit nombre, mais qui vont être facilement lavables. Une fois que tu as fait ce choix, tu dois choisir évidemment le matériau. Donc on a choisi le verre parce que c'est inerte. Et parce que c'est facile à laver et à sécher. Et puis derrière, on a créé toute cette boucle de consigne. Donc c'est quoi créer une boucle de consigne ? C'est gérer des points de collecte. Donc nous, c'est nos 500 points de vente qui vont servir de points de collecte des flacons. On va récupérer ces points de vente auprès d'eux. Et puis derrière, en centrale, c'est trier, laver, sécher, re-remplir ces flacons. Donc très concrètement, on s'est appuyé sur des salles blanches qui sont en ESAT. Donc on en a notamment un à Taverny, en Île-de-France, qui va centraliser ces flacons. C'est eux qui vont faire le tri, donc des personnes en situation de handicap, pour les ESAT, pour ceux qui ne connaissent pas. Personnes qui vont faire le tri, qui, en salle blanche, vont suivre nos protocoles et utiliser notre machine pour laver les flacons, les sécher, les re-remplir et les remettre sur le marché. Donc c'est nous qui avons créé notre propre boucle au départ pour avoir ce schéma vertueux.
Ça n'a pas dû être évident, quoi. On a dû vous prendre un peu pour des dingues, non ?
Alors oui, on a pas mal passé de temps effectivement à trouver les bons partenaires, c'est pas forcément évident, pas forcément les dingues, parce que en fait, quand on dit qu'on veut faire mieux, et notamment pour la planète en l'occurrence, souvent les gens vont pas dire c'est complètement débile. Après, à mettre en œuvre, effectivement, c'est pas forcément une panacée, mais finalement on a pu trouver des solutions avec les bons partenaires, et puis plus on grossit, plus c'est facile.
C'est ça. Alors, aujourd'hui, Cozy est aussi le pionnier du vrac cosmétique. Ouais. Comment et pourquoi cette idée est-elle née ? Parce qu'il y avait déjà la consigne, donc...
Complètement. En fait, on voulait aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Alors déjà, l'intérêt du vrac par rapport à la consigne, quand on veut aller jusqu'au bout, c'est qu'on a le choix de la quantité.
Ouais.
Ce qui est important si on veut éviter le gaspillage, et ce qui est important aussi si on est sur des budgets serrés, qu'on veut faire très attention à la quantité qu'on consomme, etc. Ce qui est particulièrement présent en ce moment où on tourne avec des sujets d'inflation et de pression sur le pouvoir d'achat.
C'est ça.
Très fort. Autre approche, ces schémas de vrac sont les solutions vraiment les plus parfaites d'un point de vue écologique quand tu es dans un schéma où le consommateur peut laver son flacon et re-remplir son flacon en magasin. Parce que donc cette boucle de lavage va être très très courte puisque c'est fait chez le consommateur. Pas toujours possible, mais là. Donc très concrètement, tu vas pouvoir avoir des solutions parfaites, mais en vrac, mais qui ne vont pas forcément aller pour tout, pour la consigne de vrac, etc. Mais en tout cas, ça se prête parfaitement à des produits à forte rotation. Et dernier point sur le vrac pour compléter par rapport à la consigne, et ce qui n'est pas négligeable, c'est que le vrac, c'est extrêmement visible. Quand tu es à un point de vente, tout de suite, tu vois ton équipement de vrac, de refill. Dans la tête du consommateur, immédiatement, il va y avoir le schéma « Ok, c'est du vrac, je vais pouvoir recharger, donc je vais économiser, je peux choisir à la juste quantité, je ne vais pas générer de déchets, etc. » Donc il y a ce côté aussi merchandising et communication. Pour nous, on ne va pas le cacher, sur la partie RP, ça a été important au début. Qui était propulsé par les vracs et les systèmes de vrac.
Ouais. D'accord. Et alors, pour moi, le vrac, souvent, enfin, quand je le vois au niveau alimentaire, en tout cas, je me pose toujours des questions, et en cosmétique encore plus, par rapport à l'hygiène, voilà, stabilité des formules. Quel système vous avez mis au point?
Alors, c'est pas toujours compliqué et ça va dépendre en fait des formules évidemment. Si nous on a par exemple un déodorant avec une base alcool où la gestion de l'hygiène va être relativement simple, ça va être beaucoup plus compliqué évidemment pour une crème nourrissante, visqueuse avec des possibilités de développement microbien dans le temps, etc. Pour autant, même si c'est pas toujours compliqué, on est dans l'industrie cosmétique soumis à une réglementation très strict et contrôlé par l'ANSM, qui est l'autorité du médicament, et qui est même parfois bien plus strict que pour l'alimentaire, ce qui peut paraître peut-être absurde,
mais
c'est comme ça. En tout cas, on est très clairement soumis au règlement européen cosmétique, ce qui fait qu'en tant que marque, eh bien, on est personne responsable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut maîtriser le risque de A à Z, et donc il ne faut pas qu'il y ait de risque, effectivement, que si le client se sert en vrac, qu'il n'y ait pas de souci de développement microbien, de conservation, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est justement ces systèmes de distribution, qu'on appelle chez nous la doseuse ou la dosette, qui vont permettre de maîtriser deux piliers que sont d'un côté l'hygiène et de l'autre côté la traçabilité.
Okay.
Alors, ces deux machines, en l'occurrence, n'existaient pas pareil quand on s'est lancé. Nous, on a dû tout faire, développement, assemblage, etc., par nous-mêmes.
Ouais.
Au départ, il y avait déjà des systèmes qui existaient de vrac, mais pour l'alimentaire, c'est pas les mêmes choses. Il y a des enjeux beaucoup plus forts. Et nous, donc, on a dû développer cette machine pour répondre justement à ces enjeux spécifiques d'hygiène et de traçabilité. Et donc, pour être très concret, il faut s'assurer que le produit qui est dans la machine, dans l'équipement de vrac, ne se dégrade pas dans le temps, donc il faut le conserver à l'abri de l'air et de la lumière. Deuxième aspect extrêmement important, c'est qu'au moment où le consommateur se sert en vrac, la poche qui conserve le vrac est mise sous pression et va distribuer directement dans le flacon, ce qui fait qu'en fait, le produit va directement de la poche au flacon sans toucher la machine.
Donc
no air, no contact, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de produit qui va stagner dans un coin de la machine ou qui va mal vieillir. Et ça, c'est des sujets extrêmement importants qui permettent de maîtriser l'hygiène. En tout cas, les solutions sont toujours possibles. Ça peut paraître, effectivement, les barrières à l'entrée peuvent être un peu plus importantes que pour de l'alimentaire au départ, mais les solutions existent toujours.
Et en termes de produits, donc tu disais que ça se prêtait pour le déodorant. Est-ce qu'il y a d'autres galéniques, d'autres produits pour lesquels ça se prête?
Oui, toutes. Il y a aucune barrière technique. S'il en reste peut-être 2-3, elles sont en train d'être levées. Donc très concrètement, le marché avance très vite en termes d'offres, justement, et que tu aies affaire à une huile, à un déodorant, à une crème visqueuse, à un produit moussant, quelle que soit la galénie, quelle que soit la viscosité, etc., les solutions existent. Donc il n'y a pas de barrière de ce côté-là si on va aller vers le rack. Par contre, là où est la barrière, c'est sur le modèle économique. Ouais. C'est extrêmement important et à prendre en considération dès le départ, ce que certains d'ailleurs peuvent oublier parfois. Pourquoi ? Parce que le système de vrac, justement, selon la complexité de la formule, ça peut coûter entre 50 et 1500 euros.
La machine ?
La machine, pour une fontaine. Ouh. Tout à fait. Je te prends deux extrêmes.
Ouais.
Mais en tout cas, évidemment, ce n'est pas les mêmes enjeux derrière. Donc très concrètement, ça fait que selon les canaux de distribution de ta marque, selon les produits et selon ta marge brute, pour faire très simple, mais aussi ton prix de vente, bah, y a des références qui vont très bien aller pour le vrac et d'autres pas. Donc il n'y a aucune limite technique. La seule limite, c'est de bien ficeler le modèle économique.
Le modèle économique.
Exactement.
D'accord. Ok. Et votre idée, c'était de participer à la transition écologique.
Hein,
et ça fonctionne.
Ouais.
Puisqu'aujourd'hui, vous aidez plusieurs marques des grandes marques françaises à développer des références en vrac.
Oui.
C'est fou, ça. C'était quelque chose une chose à laquelle vous aviez pensé au départ ou ça s'est fait parce que les gens sont venus à vous et vous ont dit, tiens, votre système, ça nous intéresse.
Ça s'est fait effectivement naturellement parce que les gens sont venus à nous, les grandes marques sont venues à nous. Alors la plupart sont françaises de fait, mais pas que, mais quand même beaucoup sont françaises. Donc dans l'écosystème, on a très vite été identifiés et contactés par eux parce qu'on est pionniers en la matière effectivement. On n'avait pas vu venir aussi vite, pour autant on s'était fixé comme mission dès le départ avec les associés de promouvoir une consommation responsable au sein de l'industrie, l'industrie cosmétique, de la filière cosmétique. Donc c'est poser la question en fait quand ces marques concurrentes sont venues nous voir, même si c'est pas la même taille. Hein, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les accompagne ou pas ? Et donc suivant cette mission, on s'est dit évidemment qu'on les accompagne. On changera pas le monde tout seul avec Cozy marque, mais on peut par contre aussi accompagner d'autres acteurs dans cette aventure. Ce qui fait que effectivement très tôt. Après échange avec pas mal de marques, c'était juste au début, par courtoisie pour comprendre un peu ce qui se passait, mais très clairement il y a eu des opportunités d'accompagner ces marques, certes, la plupart au départ vers le vrac. Donc on a très rapidement proposé des machines de vrac, des solutions de vrac à Yves Rocher pour leur boutique en propre, à Clarins pour leur boutique en propre, à plusieurs marques qui sont en pharmacie, donc Bioderma, Mustela, SVR, etc. Donc beaucoup de grandes marques qui ont envie d'aller vers la solution de vrac et vers cette transition écologique. Ce qu'il y a de chouette, c'est que c'est en pleine évolution, forte, très forte, qu'on accompagne aussi maintenant beaucoup de marques de plus petite taille, ETI, PME, etc., mais pas forcément que des grandes, parce que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus de marques. Soit parce qu'elles sont contraintes par la loi, mais bon, tant mieux, parce que ça fait bouger les choses, soit parce qu'elles sont elles-mêmes convaincues qu'il faut faire bouger les choses. Donc oui, on accompagne et c'est venu relativement facilement, parce que juste, on a eu simplement à relire la première ligne qu'on avait écrite sur notre cahier, sur notre mission de départ avec mes deux associés.
Ouais, d'accord. Alors, résultat, vous menez de front deux activités assez différentes, bien qu'elles soient reliées. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y en ait une, comme le vrac, qui vampirise l'autre, les cosmétiques ?
J'ai pas d'inquiétude sur la vampirisation. Il y a des vrais sujets qui se posent. Alors, il faut bien Cozy, qui est notre marque de cœur, qu'on va mettre beaucoup de valeur. Que j'ai déjà évoqué sur la transition écologique, mais aussi sur le social avec l'inclusion, et puis évidemment sur l'agriculture. Toutes ces valeurs-là sont importantes pour nous, ça fait une marque de cœur. Pour autant, c'est aussi une vitrine, c'est-à-dire qu'on montre, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on a un modèle d'économie circulaire, de vrac et ou de consigne, qui fonctionne, avec un business model qui tourne. Et en tant que marque aussi, on est personne responsable, comme je le disais, donc on montre que c'est parfaitement faisable de faire ces choses-là en maîtrisant l'hygiène, en maîtrisant la traçabilité. On est passé par ces sujets-là, il n'y a pas de problème, on peut dérouler. Donc cette vitrine reste extrêmement importante, si tu veux, sur les deux jambes du modèle. Et je n'ai pas peur de vampirisation parce que non, on n'a pas la même clientèle directement, forcément, quoi qu'il arrive. Donc on n'a pas de risque que ces grandes marques vraiment aillent chercher des clients cosy. Moi, je n'y crois pas du tout. Le risque se porte plus sur nous, où est-ce qu'on porte nos efforts, nos investissements, nos ressources, etc.
Ça que je voyais,
il faut effectivement qu'on soit vigilant pour les équipes, pour les investissements qu'on mène, où est-ce qu'on les mène, donc ça on se repose les questions régulièrement, etc. Mais c'est effectivement important, c'est là le risque, c'est un risque qu'on accepte et qu'il faut gérer, mais on trouve que c'est extrêmement vertueux d'avoir ces deux jambes, cette marque qui montre la voie et de pouvoir accompagner les autres. Et à nouveau, si tu me dis, je prends le scénario catastrophe où dans 5 ans, notre marque n'existe plus, mais qu'on a réussi à embarquer tous les grandes et plein de marques dans la voiture de l'économie circulaire, bah, écoute-moi, à titre personnel, je serais heureux.
D'accord. Et qui est le client ou la cliente Cozy?
C'est une question hyper intéressante parce que ça a beaucoup évolué. Entre justement, voilà, ça fait que 5 ans, c'est relativement rapide. Mais au départ, quand on s'est lancé, notre clientèle était un cœur de clientèle très engagé au départ pour la cause environnementale. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient déjà principalement dans le zéro déchet, notamment, qui cherchaient des solutions pour réduire leur empreinte carbone, qui cherchaient des solutions pour réduire leurs déchets. Donc, ils voient la première solution exister de dentifrice de crème nourrissante en consigne ou en vrac. Ils disent, bah, ok, j'essaye, c'est génial. En plus, derrière, ça me plaît, donc je suis fidélisé, je reste client. Ça, c'était les premiers. Donc, c'est des jeunes ou des moins jeunes qui sont engagés, qui étaient dans une certaine démarche. Mmh. Après, on allait plus vers des points de vente distribution bio, où là, les consommateurs sont principalement sensibles à la santé. C'est des enjeux extrêmement importants. Mais aussi une fibre quand même environnementale. Donc c'était aussi, embarquer ses consommateurs, c'était un peu la même démarche. Après, là où on a vraiment, où ça a vraiment évolué dans les 18 mois après le lancement, peut-être 24 mois après le lancement, c'est quand on rentre dans des canaux de distribution plus spécifiques beauté, dédiés à la beauté, ou des points de vente type BHV, Printemps, ou des magasins vraiment dédiés à la beauté, où là, on va être peut-être plus sur des CSP plus, parfois des bobos, donc on va encore chercher une autre clientèle. Et puis plus récemment, quand on rentre dans des points de distribution plus, entre guillemets, mainstream, on va être chez Monoprix, Nature et Découverte, et bien là, c'est plus la même clientèle, et c'est même extrêmement intéressant, c'est-à-dire que la porte d'entrée n'est pas la même. Le consommateur est beaucoup moins sensible à la consommation. Il n'est pas forcément à fond sur rechercher une consommation plus durable. C'est pas forcément sa motivation première. Pour autant, les messages commencent en tout cas par rapport à il y a 5 ans, sont quand même beaucoup plus diffusés, tant par les médias que par les politiques. Mais pour autant, l'acte d'achat, c'est je veux une crème qui nourrisse ma peau, je veux un déodorant qui fasse que je ne sente pas mauvais. Donc ça, c'est l'acte d'achat de départ, donc test, le produit plaît, etc. Mais ce n'est pas l'acquisition, on ne va pas rentrer par la porte, ok, je fais de la consigne, le vrac, au départ, ils s'en moquent. Par contre, à l'usage, si le produit plaît, et il plaît, c'est la fidélisation concrète. Parce que là, au-delà de dire, je vais racheter mon produit parce qu'il me plaît, on est quand même dans un secteur où les clients ont tendance à butiner à ces différentes marques.
Il y a du choix. Hein.
Bah nous, ils vont rapporter leurs flacons, soit pour qu'ils soient consignés et rechargés, soit pour qu'il soit re-rempli par le consommateur lui-même, mais c'est là qu'on crée la fidélisation.
D'accord.
Donc si tu veux, la clientèle a vraiment évolué, on garde tous ceux du début, et c'est notre force évidemment, mais on va aussi de plus en plus large, et en évangélisant et en accompagnant justement ces consommateurs dans cette voie de l'économie circulaire. Au début, ils ne s'en rendent pas compte, et puis après, on fidélise grâce à ça.
C'est plutôt sympa de se rendre compte que le message se diffuse.
Complètement.
Et comme beaucoup d'indie brands, j'imagine que la situation actuelle avec l'inflation, les matières premières qui prennent 10%, etc., vous impacte?
Oui et non. Je vais commencer par le oui sur la partie demande, c'est-à-dire sur la partie consommateur. Les consommateurs ont moins de pouvoir d'achat et donc toutes les marques en souffrent.
Bien sûr.
Et notamment, nous, on est évidemment, de par notre modèle consigne où il faut des points de collecte ou vrac où il faut mettre les machines en magasin, on est très on s'axe énormément sur notre partie retail, donc sur le point de vente partenaire, pas moins sur le digital, même si on fait quand même du digital. Et ces points de vente partenaires sont globalement des magasins bio, des magasins vrac, des magasins ou des magasins beauté, mais en tout cas, quelle que soit la situation, depuis 12 mois effectivement ils sont en souffrance parce que le pouvoir d'achat est en souffrance. Parce que si c'est la bio, c'est un peu plus cher, donc les clients, voilà.
Ouais.
Donc on est conjoncturellement, au moment où on enregistre, effectivement, dans une situation complexe sur la partie demande. Après, sur la partie offre, donc nos achats, nous, Cozy, en tant que marque, on a un sacré avantage, tant sur la sur toute la chaîne d'approvisionnement et sur l'aspect rupture et sur et à la fois sur le coût, parce que comme on est dans l'économie circulaire, nous, si tu veux, on va récupérer nos flacons, ou le consommateur va même réutiliser son flacon. Donc déjà, si je veux un flacon en verre, ouais, j'ai pas forcément besoin de l'acheter. Je peux aller récupérer celui qui est dans le magasin, qui a fini d'être utilisé et que je vais pouvoir laver. Donc très concrètement, depuis le début de l'année, je pense, parce qu'on achète encore quelques flacons verts, je pense qu'on a dû prendre une inflation sur nos coûts du verre de l'ordre de 27-29%, quelque chose comme ça. Là où nos coûts de lavage des anciens flacons, on fait plus 0%. Donc si tu veux, on a on a toute l'économie circulaire qui nous est favorable, puisque là où tous nos concurrents vont avoir des coûts qui explosent, ça bouge pas. Et pareil, si je parlais des ruptures d'approvisionnement, tu peux avoir des ruptures d'approvisionnement sur du verre, sur du PET, etc., du fait de la situation économique et géopolitique. On a un stock de flacons qui est sur le marché, qui tourne et qui nous revient. Ouais. Donc on est... Voilà, côté demande, la situation est complexe pour toutes les indies, on en fait partie. Côté achat, nous, on est plutôt bien lotis grâce à notre schéma. C'est quand même chouette d'avoir un schéma vertueux qui, en plus, économiquement, nous aide, non ?
Ouais, non, mais c'est cool, c'est cool. Effectivement, ouais. Et tu as rencontré Cyril Dion il y a quelques temps. J'ai vu une photo passer sur LinkedIn. Tu avais l'air hyper content. Alors, peut-être que tu peux nous rappeler qui c'est et pourquoi tu étais tellement heureux de le rencontrer.
Oui, alors c'était effectivement un moment sympa. J'ai fait ça modestement et humblement, sa première partie. En fait, c'était un événement organisé par le Cosmetic Mag, donc un magazine de l'industrie cosmétique. Et donc, j'étais speaker avant lui. Donc voilà, je chauffais la salle pour lui. Non, je rigole. Cyril Dion, c'est quelqu'un qui réalise notamment des documentaires et des fictions, dont un documentaire qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Demain, avec Mélanie Laurent, notamment.
Super documentaire.
Effectivement, moi, à titre personnel, c'est l'un des... j'aime pas parler de déclic et du jour au lendemain, je me réveille, tiens, j'ai envie de sauver le monde. Mais ça fait partie, moi, dans ma construction, tu vois, justement, je te disais, j'ai mis les pieds dans l'économie circulaire et j'adore ça. Clairement, c'est une des inspirations qui a été forte pour moi. Pourquoi ? Parce que Cyril, dans ce documentaire et dans les autres d'ailleurs, dresse un constat qui est pas très rose, on va dire, qui est plutôt, mais toujours propose aussi, met en valeur toutes les solutions qui sont mises en œuvre. Et évidemment, c'est inspirant parce que, il faut être très vigilant, on est en train de consommer beaucoup, de dégager beaucoup de CO2, etc. Mais nous, effectivement, notre mot d'ordre, c'est de ne surtout pas tomber dans l'anxiété, mais d'agir. Et d'accompagner aussi le consommateur dans ses actions. On en parlait, effectivement, c'est hyper important que le consommateur, alors soit il a envie de se bouger lui-même, et donc il rentre de lui-même, il achète Cozy ou d'autres marques vertueuses comme nous, très bien. Soit il faut l'accompagner, donc soit en lui expliquant, soit en jouant. Ça peut être, on peut jouer sur aussi. On peut jouer sur la consigne, soit en travaillant sur les prix pour que le vrac soit moins cher, ce qui est souvent le cas. Il y a pas mal de leviers comme ça. Mm-hmm. En tout cas, effectivement, Cyril Dion, c'est une inspiration parmi d'autres. J'ai pas mal de livres, de documentaires, mais effectivement, c'est toujours un plaisir de rencontrer quelqu'un qui t'a inspiré comme ça.
Ouais, j'imagine. Et c'est quoi les prochains lancements, défis pour Cozy ?
Écoute, on est lancé, donc les défis vont rester les mêmes. Après, sur les enjeux de lancement, justement, on est d'abord sur la partie consigne. Je viens de te l'évoquer, on est en train de réfléchir et de déployer, là, c'est pas encore parfaitement ficelé, mais justement des nouveaux schémas. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, la consigne, historiquement, alors pour certains ça peut être une habitude, hein, notamment dans l'Est de la France, ou ceux qui habitent en Allemagne, pour d'autres ça peut être marrant, pour d'autres ça peut être pénible, et nous ce qu'on veut pas c'est que ce soit pénible, justement. Donc on a tout un chantier pour réenchanter la consigne, que ce soit pas juste un acte ou un geste économique, monétaire, ou écologique, mais que ce soit sexy, désirable,
que ce soit un réflexe,
ludique,
quoi.
Voilà. Et en fait, on a une chance unique en fait avec cette consigne, ces flacons qui nous reviennent et qui vont être utilisés. C'est qu'on a une surface d'expression avec nos clients qui est véritablement unique, hein, qui est dans les deux sens. Donc ça, c'est très chouette. On est en train de travailler dessus. Après, on l'a évoqué aussi. sur accompagner nos clients dans les besoins qu'ils ont et vers des modèles de consommation plus vertueux. Et on va accompagner ceux qui sont jeunes parents, etc., vers la gamme enfant, ça va de soi.
Ok. Bon, bah, super projet.
Ouais, et puis après, sur la partie accompagnement des marques, grandes et petites, alors on va de plus en plus vers les petites parce qu'elles sont de plus en plus intéressées aussi, donc on est ravis de les accompagner. Dont certains qui sont venus dans ton podcast, évidemment. On va continuer de les accompagner. Et on va continuer de structurer justement cette offre. Et on va de plus en plus, on a beaucoup accompagné sur le vrac, on continue d'accompagner beaucoup sur le vrac en proposant des solutions de vrac. Et de plus en plus, ces 4, 5, 6 derniers mois, se montent des projets de consignes pour la cosmétique qui sont plus massifs que nous, Cosy tout seul. Donc ça nous intéresse beaucoup au titre personnel parce qu'on pourrait massifier. Mais ça nous intéresse aussi de partager notre expérience. On est passé par là, on a fait face à pas mal d'écueils qu'on a su surmonter, etc. Donc on peut aider la filière à avancer dans cette direction-là.
Ah ouais, génial. Ouais. Merci Arnaud.
Bah écoute, je t'en prie Chantal, c'est un plaisir.
Plaisir partagé. C'est déjà terminé, le temps passe si vite. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis, parlez de Beauty Toaster à au moins 2 personnes de votre entourage, ça m'aiderait énormément. Enfin, n'oubliez pas, désormais, on se retrouve tous les vendredis, première heure. Alors, à la semaine prochaine !